Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, en 1886, les 1er et 4 mai, à Chicago, des manifestations ouvrières se terminèrent par des heurts sanglants avec la police. L'Internationale ouvrière, fondée peu après par les partis socialistes à l'initiative de Engels, décida de faire du 1er mai une journée annuelle de grève. Par la suite, cette journée devint la fête du travail, fête censée célébrer les combats des travailleurs, entendus dans un sens marxiste comme les combats du travail contre le capital. En 1941, le maréchal Pétain transforma la fête du travail en fête du travail et de la concorde sociale. Mais cette tentative ne fut guère appréciée de ceux qui lui succédèrent, puisque dès 1948, le 1er mai redevint la fête du travail tout court. En 1956, pour tenter de christianiser la fête du travail, le pape Pie XII institua en ce jour la fête de Saint-Joseph artisan ou Saint-Joseph ouvrier, Sanctus Joseph Opifex. Cette tentative de Pie XII ne fut pas non plus appréciée de ses successeurs. En 1969, la fête de Saint-Joseph artisan rétrograda au rang de simple mémoire, le degré le plus faible parmi les fêtes, alors que Pie XII en avait fait une fête de première classe. Cette petite perspective historique nous montre qu'il y a deux conceptions du travail, celle de ceux qui ont instauré la fête du travail et celle que Pie XII a voulu enseigner par la fête de Saint-Joseph artisan. Voyons en quoi consiste la première, son erreur, puis nous verrons ce qui caractérise la conception catholique du travail. Pour les socialistes et les communistes, le travail est le moyen par excellence de promouvoir la dignité de l'homme. Le but du travail est purement humain. Il sert à glorifier l'homme, à élaborer une société prétendument meilleure par les seules forces de l'homme. Une erreur voisine sur le travail est celle de l'Église conciliaire. L'Église conciliaire cherche à rapprocher la doctrine de l'Église de la doctrine du monde moderne. Elle va donc adopter, elle aussi, une conception humaniste du travail. Pour l'Église conciliaire, le travail sera un moyen pour l'homme d'aider Dieu à créer un monde meilleur. Ainsi, Gaudium et Spes, un des principaux textes du Concile Vatican II, dit que le travail est un prolongement de l'œuvre du Créateur. Les travailleurs, continue Gaudium et Spes, les travailleurs ouvriers et paysans veulent non seulement gagner leur vie, mais aussi développer leur personnalité par leur travail. Le travail est donc, pour l'Église conciliaire, un moyen de créer un monde meilleur, de développer la personnalité de l'homme. Le travail est même si important qu'il devient le but de la vie humaine. Le fondateur de l'Opus Dei, canonisé par Jean-Paul II, n'hésite pas à dire que l'homme a été créé ut operaretur, pour travailler. Mais c'est là un renversement de la doctrine chrétienne. L'homme, dit le catéchisme, a été fait pour connaître et aimer Dieu. La vie contemplative a toujours été considérée par l'Église comme supérieure à la vie active. Mais pour les modernistes, c'est l'inverse. L'action est supérieure à la contemplation. C'était déjà l'erreur des américanistes à la fin du XIXe siècle. Cherchons maintenant à caractériser la vraie conception du travail, la conception catholique, celle que nous enseigne la fête d'aujourd'hui. Pour cela, voyons d'abord pourquoi Saint Joseph travaille, dans quel but. La réponse est simple. De façon prochaine, il travaille pour nourrir Jésus et Marie. Et dans une perspective plus lointaine, il travaille pour préparer la rédemption du genre humain en préparant la victime du sacrifice rédempteur. Le Notre Père nous fait demander à Dieu, donnez-nous notre pain quotidien. Dieu, en tant qu'il est notre Père, nous donne notre pain quotidien. C'est même la première chose que nous lui demandons pour nous. Eh bien, de même, un des premiers devoirs du père de famille est de collaborer avec Dieu, non pas pour faire un monde meilleur ou pour améliorer la dignité de l'homme, mais plus humblement pour nourrir sa famille. À ce sujet, remarquons que l'Église appelle précisément Saint Joseph père nourricier de Jésus. Pour comprendre cette appellation, rappelons que le père dans la famille a un triple rôle vis-à-vis de ses enfants. Il leur donne la vie, la nourriture et l'éducation. Esse nutrimentum disciplinam, disaient les anciens. Dans le cas de Saint Joseph, celui-ci n'a pas donné directement la vie à notre Seigneur, puisque notre Seigneur est le Fils de Dieu et qu'il n'a pas de père humain. Saint Joseph n'a pas donné la vie laissée à notre Seigneur, cependant, il était nécessaire pour que Dieu s'incarnât. Notre Seigneur devait naître d'une mère vierge, mais cela ne pouvait se faire que si elle avait un époux pour la protéger, pour protéger sa réputation et pour protéger sa virginité. Sans être la cause directe de la vie humaine de notre Seigneur, Saint Joseph a collaboré à la naissance de notre Seigneur. Il est donc la cause indirecte de la vie de notre Seigneur. Aussi devait-il assumer les deux autres rôles du Père, nourrir et éduquer son enfant. Son rôle principal, si l'on peut dire, c'est de nourrir notre Seigneur, car pour ce qui est de l'éduquer, Jésus n'avait guère besoin d'être instruit, même s'il a accepté humblement de recevoir de Saint Joseph quelques instructions sur la manière de travailler, en l'écoutant et en l'interrogeant, comme il fera à 12 ans avec les docteurs de la loi dans le temple. Pour ce qui est de la nourriture et de l'éducation, nutrimentum et disciplinam, Jésus a voulu dépendre du travail d'un homme. C'est là une profonde leçon d'humilité. La vie de l'enfant Dieu dépendait de la protection d'un homme, de l'humble travail d'un charpentier. Et celui-ci a initié son enfant au travail, il lui a mis dans ses mains ses outils. Aux yeux de tous les contemporains, nous dit l'Évangile, Jésus était le fils du charpentier, Fabri Filius. Lui-même était un ouvrier, nonne hic est faber. Dans une perspective plus lointaine, le travail de Saint Joseph avait pour but de préparer la victime du calvaire. Il fallait que Jésus grandisse en taille, en grâce et en sagesse, qu'il parvienne à l'âge adulte pour pouvoir offrir son sacrifice sur la croix. Par là, nous apprenons que notre travail n'a pas simplement un but naturel, celui de nourrir les corps, mais un but surnaturel, préparer pour Dieu des êtres qui lui soient consacrés. Les parents ne forment pas seulement des hommes et des femmes, ils forment des chrétiens qui devront suivre la vocation que Dieu leur a donnée, celle d'être telle ou telle pierre de la Jérusalem céleste. Ainsi, le travail de Saint Joseph nous enseigne le but du travail du père de famille, nourrir ses enfants, les préparer à remplir leur rôle de chrétien. Mais le travail de Saint Joseph nous renseigne aussi sur les conditions d'un travail chrétien, sur la manière de travailler. Comment Saint Joseph travaillait-il? Son travail était un travail humble, un travail intelligent et mesuré, un travail laissant libre pour Dieu. Un travail humble d'abord. N'oublions pas que Saint Joseph était de race royale, qu'il était même l'héritier légitime du trône d'Israël. Il aurait dû régner sur Israël. Son fils, Jésus, était le fils de Dieu, le roi du monde. Pourtant, tous les deux ont voulu se soumettre à un travail humble, le travail d'un artisan, d'un ouvrier. Ils ont voulu aussi se soumettre à la nécessité imposée par la sentence divine. C'est à force de travail que vous tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre vie, avait dit Dieu à Adam après le péché. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage. Si Jésus a voulu un travail humble pour lui et donc pour son père nourricier, c'est qu'il était venu réparer la faute de nos premiers parents, qu'il a pris sur lui la peine du péché. Et Saint Joseph s'est associé à cette réparation. À l'exemple de Saint Joseph et de l'enfant Dieu, aimons les travaux humbles, ceux qui nous font gagner notre pain quotidien à la sueur de notre front. Le travail de Saint Joseph était un travail intelligent et mesuré. Même si l'Évangile ne nous le dit pas expressément, on devine que Saint Joseph et l'enfant Jésus avaient du goût pour leur travail, qu'ils le faisaient avec intelligence, qu'ils faisaient du bel ouvrage. Dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, on voyait encore des charrues et des objets sortis de l'atelier de Nazareth. Malheureusement, nous ne les avons plus. Mais nous avons le bel escalier construit par Saint Joseph, selon toute vraisemblance, dans un couvent à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, en 1880. L'histoire a été racontée dans la lettre des Dominicains d'Avrier, numéro 89, datée du mois de mars 2019. Saint Joseph et l'enfant Jésus avaient du goût pour leur besogne, et ils la faisaient bien, car Jésus faisait toutes choses bien. Omnia bene fecit, dit l'Évangile. Saint Joseph et Jésus ne courbaient pas le front sous le poids d'un travail excessif, encore moins dans le désir d'un gain démesuré et d'une réussite humaine. Enfin, troisième caractéristique, le travail de Saint Joseph et de son illustre apprenti les laissait libres pour Dieu. Saint Jérôme raconte que de son temps, on entendait les paysans de Palestine chanter les psaumes en cultivant la terre. On imagine le travail de l'atelier de Nazareth rythmé par le chant de quelques psaumes ou de quelques chants religieux. On imagine surtout Saint Joseph ayant toujours à la pensée et dans son cœur la Sainte Vierge et l'enfant Dieu pour qui il travaillait. On lit dans un poème sur Saint Joseph: quand les outils sont rangés à leur place et que le travail est fini, quand du Carmel au Jourdain, Israël s'endort dans le blé et dans la nuit, comme jadis, quand il était jeune garçon et qu'il commençait à faire trop sombre pour lire, Joseph entre dans la conversation de Dieu avec un grand soupir. Joseph est avec Marie et Marie est avec le Père. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de choisir le travail qu'on voudrait, mais n'hésitons pas à faire les sacrifices qu'il faut pour que notre travail soit également un travail humble, un travail intelligent et mesuré, un travail laissant libre pour Dieu. Nous y trouverons la paix de l'âme, le vrai bonheur possible ici-bas, qui nous prépare au bonheur éternel. C'est aujourd'hui le premier samedi du mois, puis spécialement consacré au cœur immaculé de Marie. C'est aussi le premier jour du mois de Marie. Quand Saint Joseph travaillait, comme nous le disions, il pensait à sa tendre épouse qui était près de lui. De même, Jésus travaillait sous le regard de sa mère. Notre-Dame était l'âme de l'atelier de Saint Joseph. Demandons au cœur immaculé de Marie de nous aider à travailler d'une manière chrétienne à l'imitation de Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.